Dixième partie. Bienvenidos a Texas. 26 juillet. 1. Jack Hoskins franchit la frontière du Texas vers 2 heures du matin le 26 juillet et s'arrêta dans un hôtel miteux, l'Indian Motel, au moment où les premières lueurs du jour perçaient à l'est. Il paya à l'employé endormi une semaine d'avance avec sa Mastercard, la seule avec laquelle il n'avait pas atteint le plafond autorisé, et demanda une chambre située à l'extrémité du bâtiment délabré. Elle sentait l'alcool éventé et le tabac froid. Le lit était défoncé, l'édredon élimé et la tête d'oreiller jaunie par le temps, la sueur ou les deux. Il s'assit sur l'unique chaise et fit défiler sans s'y intéresser vraiment les textos et les messages vocaux de son téléphone. La messagerie pleine avait cessé de les enregistrer à 4 heures. Ils émanaient tous du poste de police de Flint City, certains du chef Geller en personne. Un double meurtre avait été commis dans le West Side. Ralph Anderson et Betsy Riggins étant en congé, il n'y avait pas d'autre inspecteur en service. Où était-il, bon sang? On avait besoin de lui sur place immédiatement, bla bla bla. Jack s'allongea sur le lit, sur le dos, mais son coup de soleil frottait contre l'oreiller. Il se mit de côté, faisant couiner les ressorts sous son poids considérable.
« Je pèserai moins lourd si le cancer m'attrape », pensa-t-il. Maman n'était plus qu'un squelette enveloppé de peau à la fin. Un squelette hurlant. « Mais ça n'arrivera pas », dit-il en s'adressant à la chambre vide. « Il faut juste que je dorme un peu, et tout va s'arranger. »
4 heures suffiraient, 5, avec un peu de chance. Mais son cerveau refusait de se débrancher, comme un moteur qui tourne au point mort. « Cody. » Ce petit salopard qui fourguait de la cam à la station-service, High, avait bien un stock de pilules blanches, et même une jolie quantité de coke, presque pure, avait-il affirmé. Et à en juger par l'état d'excitation dans lequel se trouvait Jack, couché sur ce lit merdique, par question de s'y glisser, Dieu seul savait ce qui rampait entre les draps. Cody n'avait pas menti. Jack avait juste sniffé quelques petits rails, après minuit, quand le trajet lui avait semblé interminable. Et maintenant, il avait l'impression qu'il ne dormirait plus jamais. Il se sentait capable de réparer un toit et de courir 10 bornes ensuite. Le sommeil vint malgré tout, mais léger et hanté par l'image de sa mère. Il se réveilla à midi passé. Il régnait dans la chambre une chaleur pestilentielle contre laquelle le climatiseur pourri ne pouvait lutter. Il se rendit dans la salle de bain et, après avoir uriné, il essaya d'examiner sa nuque en feu, sans y parvenir. C'était peut-être préférable. De retour dans la chambre, il s'assit sur le lit pour enfiler ses chaussures. Mais il lui en manquait une. Il la chercha à tâtons. Et on la lui fourra dans la main.
« Tiens, Jack !»
Il se figea. Ses bras se couvrirent de chair de poule et ses cheveux se dressèrent sur sa nuque. L'homme qui s'était caché dans sa douche, chez lui, à Flint City, se trouvait maintenant sous son lit, comme les monstres imaginaires qui le terrorisaient dans son enfance.
« Écoute-moi bien, Jack. Je vais t'expliquer très précisément ce que tu dois faire. »
Quand la voix eut fini de lui donner des instructions, Jack s'aperçut que la douleur dans son cou avait disparu. Enfin, presque. Et ce que l'on attendait de lui semblait assez simple, bien que radical. Mais ce n'était pas un problème car il était certain de s'en tirer sans être inquiété, et liquider Anderson serait un immense plaisir. C'était lui l'emmerdeur en chef après tout, monsieur Padavi. Il l'avait bien cherché. Dommage pour les autres, mais Jack n'y était pour rien. C'était Anderson qui les avait entraînés dans cette histoire.
« Pas de balle, » murmura-t-il.
Après avoir enfilé ses chaussures, Jack se mit à 4 pattes pour regarder sous le lit. À part une épaisse couche de poussière, un peu dérangée par endroits, il n'y avait rien d'autre. Tant mieux. C'était un soulagement. Que le visiteur se soit caché sous le lit, cela ne faisait aucun doute. De même qu'il n'avait aucun doute concernant ce qui était tatoué sur la main qui lui avait tendu sa chaussure. Kant. Maintenant que la douleur du coup de soleil n'était plus qu'un murmure, et qu'il avait les idées relativement claires, il se disait qu'il pourrait manger quelque chose. Un steak et des œufs, peut-être. Une tâche l'attendait, et il devait conserver son énergie. On ne se nourrissait pas uniquement de cocaïne et d'en fait. S'il ne mangeait pas, il risquait de s'évanouir, et de mourir calciné par le soleil écrasant. Le soleil lui fit l'effet d'un direct en plein visage quand il sortit. Sa nuque émit des pulsations de mise en garde, Il s'aperçut alors, avec consternation, qu'il n'avait plus d'écran solaire et qu'il avait oublié sa crème à l'aloe vera. Mais peut-être en trouverait-il à la cafétéria qui jouxtait le motel, parmi toutes les babioles qu'il disposait devant les caisses dans ce genre d'endroit. T-shirt, casquette de baseball, CD de musique country et souvenirs Navarro fabriqués au Cambodge. Il vendait forcément quelques produits de première nécessité à côté de toutes ces merdes, étant donné que la ville la plus proche... Il s'arrêta net, la main tendue vers la porte vitrée et sale de la cafétéria. Ils étaient là, Anderson et sa joyeuse bande de connards, y compris la maigrelette à la frange grisonnante. Il y avait également une vieille peau en fauteuil roulant et un type musclé aux cheveux noirs très courts, avec un bouc. La vieille s'esclaffa, mais son rire se transforma en quinte de toux. Jack l'entendit du dehors, une pelleteuse qui tournait au ralenti. L'homme au bouc lui tapa dans le dos, plusieurs fois, et tout le monde se mit à rigoler.
« Rira bien qui rira le dernier », pensa Jack.
Néanmoins, cette hilarité était une bonne chose, sinon il l'aurait peut-être repéré. Il rebroussa chemin, en essayant de comprendre ce qu'il venait de voir. Qu'il rigole comme des crétins, il n'en avait rien à foutre. Mais quand l'homme au bouc avait tapé dans le dos de la vieille en fauteuil roulant, il avait vu le tatouage sur sa main. Malgré la vitre poussiéreuse et l'encre bleue délavée, il avait bien reconnu le mot « Kant ». Comment le visiteur avait pu passer si rapidement de sous le lit à la cafétéria, c'était un mystère auquel Jack préférait ne pas réfléchir. Il avait un travail à accomplir, et se débarrasser du cancer qui se propageait sur sa peau n'en représentait qu'une partie. L'autre partie consistait à se débarrasser de Ralph Anderson. Un vrai plaisir. Monsieur, pas d'avis. 2. L'aérodrome de Plainville était situé en pleine brousse, à la périphérie de la petite bourgade fatiguée qu'il desservait. Il y avait une piste unique, affreusement courte aux yeux de Ralph. Le pilote freina à fond dès que l'appareil se posa et tous les objets qui n'étaient pas fixés s'envolèrent. Ils s'arrêtèrent sur une ligne jaune en bout de piste, à moins de 10 mètres d'un fossé rempli de mauvaises herbes, d'eau stagnante et de bouteilles de bière.
« Bienvenue nulle part »,
commenta Alec, tandis que le King Air roulait lentement vers le « terminal », un bâtiment en préfabriqué qui semblait prêt à s'envoler au premier coup de vent un peu violent. Un Dodge poussiéreux les attendait. Ralph reconnut le modèle Companion, adapté au fauteuil roulant, avant même de repérer la plaque handicapée. Claude Bolton, grand et musclé, en jean délavé, chemise de chantier bleu, bottes de cow-boy usées et casquette des Texas Rangers, se tenait à côté. Ralph fut le premier à descendre de l'avion. Il avança en tendant la main. Après une hésitation, Claude la prit. Ralph ne put s'empêcher de regarder les lettres décolorées qui ornaient les doigts. Kant. « Merci de nous faciliter la tâche, » dit-il. « Vous n'étiez pas obligé et je vous en suis reconnaissant. » Il présenta les autres. Holly fut la dernière à lui serrer la main. Elle demanda
« Ces tatouages sur vos doigts, c'est une allusion à l'alcool ?»«
Mais oui, bien sûr, » pensa Ralph. « C'est une pièce du puzzle que j'ai oublié de sortir de la boîte. »«
Oui, exact, » répondit Bolton, sur le ton de celui qui récite une leçon qu'il connaît bien et qu'il apprécie.
Ils appellent ça le grand paradoxe dans les réunions des AA. La première fois que j'en ai entendu parler, c'est en prison. Vous devez boire, mais vous ne pouvez pas boire.
Pour moi, c'est pareil avec les cigarettes,
avoua Holly. Bolton sourit. Et Ralph s'étonna que la personne la plus inadaptée socialement dans leur petit groupe soit celle qui réussisse à mettre Bolton à l'aise, même s'il ne paraissait pas particulièrement nerveux. Plutôt aux aguets.
Vous avez raison, dit-il. Arrêtez les clopes, c'est dur. Vous tenez bon?
Je n'en ai pas fumé une seule depuis presque un an,
dit Holly.
Mais j'avance jour après jour. Kant et Must, ça me plaît.
Connaissait-elle depuis le début la signification de ces tatouages? Ralph n'aurait su le dire.
Pour surmonter ce paradoxe, dit Claude, il faut l'aide d'une puissance supérieure. C'est le seul moyen. Alors je m'en suis trouvé une, et je garde toujours ma médaille d'abstinence à portée de main. On m'a appris un truc. Quand vous avez envie de boire un verre, vous la fourrez dans votre bouche, et si elle fond, vous pouvez y aller.
Holly afficha ce sourire radieux que Ralph commençait à trouver si attachant. La portière latérale du van coulissa, et une rampe rouillée se déploya. Une vieille femme corpulente, coiffée d'une extravagante couronne de cheveux blancs,
la descendit dans son fauteuil roulant. Elle tenait sur ses genoux une petite bouteille d'oxygène verte, reliée par un tuyau en plastique à la canule introduite dans son nez.
« Claude, pourquoi tu restes dehors, en pleine chaleur avec ces gens? S'il faut y aller, allons-y. Il est presque midi. »
« Je vous présente ma mère, » dit Claude. « Maman, voici l'inspecteur Anderson qui m'a interrogé sur ce dont je t'ai parlé. Les autres, je les connais pas. »
Howie, Alec et Yunel se présentèrent à la vieille dame, suivie de Holly.
« Enchanté de vous rencontrer, Madame Bolton. »
Lovie s'esclaffa.
« On verra ce que vous en pensez quand vous me connaîtrez mieux. »«
Je vais m'occuper de notre voiture de location, » dit Howie. « À mon avis, c'est celle qui est garée à l'entrée. »
Il désigna un SUV de taille moyenne, bleu marine.
« Je passe devant avec le van, » déclara Claude. « Vous n'aurez pas de mal à nous suivre. Il n'y a pas beaucoup de circulation sur la route de Marysville. » « Et si vous montiez avec nous, ma jolie ?»
suggéra Lovie Bolton en s'adressant à Holly.
« Pour tenir compagnie à une vieille femme. »
Ralph s'attendait à ce que Holly refuse, mais elle accepta aussitôt.
« Accordez-moi juste une minute. »
Du regard, elle fit signe à Ralph de la suivre vers le King Air, tandis que Claude observait sa mère qui faisait pivoter son fauteuil et gravissait la rampe. À cause du vacarme d'un petit avion qui décollait, Ralph n'entendait pas ce que lui disait Holly. Il se pencha vers elle.
« Qu'est-ce que je vais leur raconter, Ralph? Ils vont forcément me demander ce qu'on vient faire ici. »
Après réflexion, Ralph répondit « Évoquez les grandes lignes, sans entrer dans les détails. »
« Ils ne me croiront pas. »
Ralph sourit. « Holly, vous êtes très douée pour convaincre les incrédules. » 3. À l'instar de nombreux ex-détenus, ceux qui ne voulaient pas risquer de retourner derrière les barreaux, du moins, Claude Bolton conduisait le Dodge Companion en roulant à 10 km/h en dessous de la limite autorisée. Après une demi-heure de route, il pénétra sur le parking de l'Indian Motel & Café. Il descendit du van et alla trouver Howie qui conduisait le SUV de location. En ayant presque l'air de s'excuser, il dit
« J'espère que ça ne vous ennuie pas si on s'arrête pour grignoter. Maman a des problèmes si elle ne mange pas régulièrement et elle n'a pas eu le temps de préparer des sandwichs. Elle avait peur qu'on vous loupe. »
Il baissa la voix comme s'il confiait un secret honteux.
« C'est à cause de son taux de glycémie. S'il baisse trop, elle tombe dans les pommes. »
« Je suis sûr que tout le monde sera d'accord pour grignoter, » répondit Howie.
« Cette histoire que nous a racontée cette femme... »«
Nous en parlerons quand nous serons arrivés chez vous, » le coupa Ralph. Claude hocha la tête.
« Ouais, c'est peut-être aussi bien. »
Il flottait à l'intérieur de la cafétéria une odeur pas désagréable de graisse, de haricots et de viande grillée. Dans le jukebox, Neil Diamond chantait « I am, I said » en espagnol. Les plats du jour, peu nombreux, étaient affichés derrière le comptoir. Au-dessus du passe-plat de la cuisine, une photo de Donald Trump avait été maquillée. Quelqu'un avait teint ses cheveux en noir, puis ajouté une mèche et une petite moustache. En dessous, on pouvait lire « Yankee bete a casa, Yankee go home ». Ralph fut tout d'abord surpris. Après tout, le Texas était un état républicain, très républicain même. Et puis il songea que si les Blancs n'étaient pas une minorité si près de la frontière, il s'en fallait de peu. Ils s'installèrent au fond de la salle, Alec et Howie à une table pour deux, les autres autour d'une plus grande table, juste à côté. Ralph commanda un hamburger, Holly une salade, qui se révéla être composée essentiellement de laitue iceberg flétrie. Yunel et les Bolton optèrent pour l'assortiment mexicain, taco, burrito et empanada. La serveuse déposa brutalement sur la table un pichet de thé glacé que personne n'avait commandé. Lovie Bolton observait Yunel de ses petits yeux brillants d'oiseau.
« Vous dites que vous vous appelez Sablo ? Drôle de nom ?»«
Oui, ce n'est pas courant, » admit-il.
« Vous venez de l'autre côté ou bien vous êtes né ici ?»«
Je suis né ici, madame. »
La moitié de son taco généreusement garni disparut en une seule bouchée.
« Deuxième génération. »
Ah, la bonne heure. Made in America. J'ai connu un Augustine Sablo, à l'époque où je vivais plus dans le sud, avant de me marier. Il était boulanger ambulant à Laredo et Nuevo Laredo. Quand on voyait arriver sa camionnette, mes sœurs et moi, on réclamait à corps et à cri des churros éclairs. C'est par apparent à vous, je suppose. »
Le teint mat de Yunel s'assombrit un peu plus. Il rougissait presque. Mais il y avait une lueur d'amusement dans le regard qu'il adressa à Ralph.
« Si, madame, ça devait être mon papy. »«
Ah, le monde est petit, hein ?»
Lovie éclata de rire, un rire qui se transforma en quinte de toux, puis en suffocation. Claude lui tapa dans le dos, si brutalement que sa canule, éjectée de son nez, tomba dans son assiette.
« Ah, oh, fiston, regarde ce que tu as fait !»
dit-elle après avoir retrouvé son souffle.
« Il y a de la morve sur mon burrito maintenant !»
Elle remit la canule en place.
« Bon, ça vient de moi, ça peut y retourner, y a pas mort d'homme !»
Elle recommença à mâchonner bruyamment. Ralph fut le premier à rire, et tous les autres l'imitèrent, y compris Howie et Alec, bien qu'ils aient loupé une partie de la scène. Ralph eut le temps de se dire que le rire rassemblait les gens, et il se réjouit que Claude ait amené sa mère, un sacré numéro.
« Le monde est petit !»
répéta-t-elle.
« En effet !»
Elle se pencha en avant, au point de repousser son assiette avec son opulente poitrine. Elle continuait à observer Yunel de ses petits yeux d'oiseau.
« Vous connaissez l'histoire qu'elle nous a racontée ?»
Son regard glissa vers Holly, qui picorait sa salade en fronçant les sourcils.
« Oui, madame. »«
Vous y croyez ?»«
Je ne sais pas, je... » Yunel baissa la voix. « Je suis tenté d'y croire. »
Lovie hocha la tête et baissa la voix elle aussi.
« Vous avez déjà assisté au défilé à Nueb ? Le proceso dos pasos ? Quand vous étiez gamin, peut-être ?»«
Si, señora. »
Lovie murmurait presque maintenant.
« Et lui, le Farnicoco, vous l'avez vu ?»«
Si. »
Alors que Lovie Bolton était aussi blanche qu'on pouvait l'être, Ralph constata que Yunel était passé à l'espagnol sans même réfléchir. Tout bas, elle demanda.
« Il vous faisait faire des cauchemars. »
Yunel hésita, puis il avoua.
« Si, muchas pesadillas. »
Elle se renversa contre le dossier de sa chaise, satisfaite, mais grave. Elle se tourna vers son fils.
« Écoute bien ces gens, fiston. Tu as un gros problème, je crois. »
Elle adressa un clin d'œil à Claude, mais ce n'était pas pour plaisanter. Son visage était sérieux.
Muchos.
4. Alors que la petite caravane reprenait la route, Ralph interrogea Yunel au sujet du proceso dos pasos.
Un défilé organisé durant la semaine sainte. Pas vraiment approuvé par l'église, mais elle ferme les yeux.
Le Farnicoco, c'est l'équivalent du Cuco de Holly.
Empire. Dit Yunel, la mine sombre. Pire même que l'homme au sac. Farnicoco est l'homme à la capuche, Monsieur Mort.